Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, reportage à Madagascar, dans un océan de pauvreté et de blocages économiques. Nous abordons un sujet d'autant plus difficile qu'il n'apparaît pas comme prioritaire. Quelle place pour la communauté LGBT à Madagascar ? Sur la grande île, contrairement à de nombreux pays du continent, l'homosexualité n'est pas illégale pour les personnes de plus de 21 ans, mais elle est encore largement condamnée par la société. Les LGBT, notamment les femmes homosexuelles, préfèrent cacher leur orientation sexuelle ou leur identité de genre par crainte de rejet de leur famille, de perdre leur travail ou de subir des discriminations. Dans ce contexte, des associations luttent pour faire respecter la loi et promouvoir un traitement égalitaire des personnes trans ou homosexuelles. Comment briser le tabou de l'homosexualité et les croyances qui y sont liées ? Pourquoi les organisations féministes ont parfois du mal à s'impliquer dans la défense des femmes homosexuelles ? On va aussi en parler avec vous, Audrey Randria Mandrato. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice et présidente de l'association Malagasy Women Empowerment. On vous retrouve bien sûr après le reportage Antananarivo de Raphaël Constant auprès de l'ONG Réseau Madagascar Solidarité LGBT. Au sein de ce réseau, je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de Mirana, 42 ans, les cheveux courts, quelques tatouages sur les bras, des piercings au visage. Elle raconte son histoire.
8 milliards de voisins, parce que nous sommes tous des voisins.
Je vais vous raconter mon histoire. Dès mon plus jeune âge, je me suis sentie homosexuelle. À cette époque, la communauté LGBT n'existait pas à Antananarivo comme aujourd'hui. Alors je me cachais. Personne ne le savait, mais certains camarades à l'école l'ont compris à la façon dont je regardais les filles et leurs fesses. On m'a vite dit que j'étais différente parce que les garçons ne m'intéressaient pas. Seule ma meilleure amie a su que j'étais homosexuelle lors de nos années au collège et au lycée.
Mirana, quand est-ce que vous avez exposé au grand jour votre homosexualité ?
Je suis sortie avec une fille pour la première fois en classe de seconde. On se cachait et devant les autres, on faisait semblant d'être des amis proches. C'est seulement à 40 ans et quand je suis devenue membre de cette association que j'ai osé dire
« Je suis lesbienne ».
Donc c'est vraiment tout récent. Et avant, comment vous viviez votre homosexualité et votre vie de couple ?
C'est une longue histoire. Le temps passait et j'avais envie d'avoir des enfants. Alors j'ai décidé de fréquenter un homme. Mais c'était une relation sous condition. Je lui ai dit que j'étais lesbienne. Il était d'accord et nous avons eu 3 enfants. Il n'y avait pas de sentiment dans notre relation. On avait des relations sexuelles uniquement pour que je tombe enceinte. J'avais une relation avec une femme lorsque j'étais avec le père de mes enfants. Et puis, un jour, j'ai décidé de me séparer de lui pour vivre pleinement ma relation avec elle.
Donc ça veut dire que votre mari acceptait que vous ayez des histoires avec des femmes en dehors de votre couple ?
C'était mes conditions dès le début et il les a acceptées. Mais après la naissance de nos 3 enfants, il a commencé à être jaloux. Je lui ai rappelé que notre relation devait rester sans sentiment. Peu de temps après notre séparation, il a fait un scandale et il a révélé mon homosexualité à toute ma famille.
Comment votre famille a réagi ?
Ils ont été surpris de l'apprendre de sa part. Certains ne l'ont pas cru et j'ai fini par leur dire que c'était vrai. L'homosexualité est très mal vue ici, c'est un péché. Ma famille est chrétienne, j'ai grandi dans un milieu protestant, j'ai été baptisée et j'ai suivi la catéchèse. Certains de mes proches l'ont accepté, mais mes parents me font toujours la morale. Sur le ton de la blague, ils me disent qu'ils finiront au paradis et moi en enfer. Je leur réponds par un sourire, ça ne me met pas en colère.
Et est-ce que les choses ont évolué ? Aujourd'hui, comment sont perçus les homosexuels dans la société ?
De nos jours, je trouve que le regard sur les lesbiennes est plus tolérant. Les gens sont plus ouverts d'esprit. Je vois de plus en plus de lesbiennes qui se montrent à visage découvert, qui marchent main dans la main dans la rue. On se cache moins, surtout quand on sait qu'il existe une association comme celle-ci. On se sent protégé, on se sent un peu plus libre. Mais il faut dire qu'à Madagascar, ça dérange moins les gens de voir des lesbiennes que des hommes gays.
Et depuis que vous avez révélé votre homosexualité, est-ce que vous êtes victime de discrimination, de stigmatisation, de violence ?
Je n'ai pas de soucis avec mes voisins et je ne crains rien dans la rue. Je suis sereine.
Aujourd'hui, ici à Madagascar, comment se traduit l'homophobie dans la société ?
On se moque des hommes gays et des transgenres dans la rue. Ils sont plus victimes d'homophobie que les lesbiennes. Les habitants de la région des Hautes-Terres sont plutôt tolérants, comme ici à Antananarive, mais en province, c'est compliqué. Beaucoup sont victimes de discrimination, d'agression. Certains sont rejetés par leur famille et doivent quitter la maison familiale pour aller vivre ailleurs. On est aussi très critiqués sur les réseaux sociaux où on nous insulte, on nous écrit qu'on s'est trompé de pays. Quelques internautes prennent la peine de répondre que c'est notre vie, que ça ne regarde que nous, mais c'est une partie infime. C'est pourquoi je défends les droits des homosexuels. Cette association, c'est une sorte de protection pour nous et je n'ai pas hésité à y adhérer.
Alors pour comprendre quel est le travail mené par le réseau Madagascar Solidarité LGBT et par ses bénévoles, notre reporter Raphaël Constant a assisté à un atelier participatif de sensibilisation sur les droits de la communauté LGBT mené par Mirana, justement. Elle appartient donc à ce réseau depuis 2 ans. Elle est devenue ce qu'on appelle père éducateur aux côtés de la présidente Balou Razo Anivo et elle fait des visites à domicile, elle mène des plaidoyers auprès des autorités locales. Ce jour-là, 5 personnes sont rassemblées au premier étage de l'association, dans le quartier d'Ambouitsou, dans le 2e arrondissement de la capitale malgache.
Nous avons tous et toutes, sans exception, les mêmes droits devant la loi. Tous les êtres humains naissent libres et égaux. Vous devez savoir quels sont vos droits, que ce soit en matière d'éducation, de santé ou au travail. Ne vous considérez plus comme des personnes différentes. Vous êtes comme tout le monde.
Je m'appelle Sissi. Moi, je ne connais rien à la loi malgache. Vous dites que nous avons les mêmes droits que les autres citoyens. Alors, ça veut dire que les forces de l'ordre sont censées nous protéger, nous aussi ? En réalité, beaucoup d'agents sont violents avec nous, les LGBT. Alors je m'interroge, est-ce que leur rôle, c'est vraiment de protéger et respecter les droits de tout le monde ?
Les autorités se sont engagées à réunir leurs équipes pour écouter notre plaidoyer. Je dois les rencontrer pour leur faire part des violences que subit la communauté LGBT. Croyez-moi, on travaille dur pour les sensibiliser et les hauts responsables savent très bien que vous avez des droits. Mais oui, c'est sûr, il y en a toujours certains qui ne les respectent pas. On va les convaincre.
Je suis une transgenre prostituée et je gagne ma vie en travaillant la nuit. Parfois, on croise les forces de l'ordre pendant leur patrouille. La première chose qu'ils voient, c'est qu'on est LGBT. Alors ils nous insultent, ils se foutent de nous, ils nous pourchassent pour nous tabasser. Ça me fait mal, on est des êtres humains comme les autres. Eux, ils se pensent au-dessus de la loi et ils se permettent de lever la main sur nous. Ils ne nous considèrent pas, ils nous volent aussi. Moi, dès que je les vois arriver, je fuis.
Les policiers savent que nous sommes dans la rue la nuit pour nous prostituer. Un jour, l'un d'eux m'a demandé le prix d'une passe. Je lui ai répondu 30 000 ariars et il a dit d'accord.
30 000 ariars, ça fait à peu près 6 euros.
Normalement, on prend une chambre d'hôtel, mais comme c'est interdit par la loi pour un policier en uniforme, il a voulu m'emmener en dehors de la ville. Je précise qu'il savait très bien que je suis transgenre. Ce jour-là, il m'a payé en avance, mais dès qu'on a eu fini, il m'a menacé avec son arme. Il a dit « Rends-moi mon argent ou je te bute ». J'ai eu si peur que j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé. Ensuite, il m'a donné un coup de pied pour me mettre à terre et il a démarré sa voiture, en me laissant là, au milieu de nulle part. J'ai dû marcher et faire du stop pour rentrer en ville.
Les forces de police ont fait le serment de maintenir l'ordre dans toute la société malgache. Ils n'ont pas le droit de lever la main sur vous. Vous pouvez porter plainte contre toute personne qui vous frappe, quelle que soit sa fonction. Ce n'est pas réservé aux hétéros, personne n'est au-dessus de la loi.
Lorsqu'ils nous agressent, on ne sait pas de quel commissariat ou de quel arrondissement ils dépendent. Les policiers ne portent pas de badge nominatif et ils ont tous les mêmes uniformes. Quand ils abusent de nous, on ne peut rien faire. Et même quand on essaye de porter plainte, personne ne nous prend en considération. Les autorités reçoivent nos plaintes et les classent sans suite, alors qu'on est tous les jours victime de violences physiques et morales.
Vous pouvez déposer une plainte contre X en mentionnant l'endroit où vous avez été agressé. Ensuite, ils doivent ouvrir une enquête. C'est nécessaire de déposer plainte pour faire changer les choses. Je suis sûre qu'ils finiront par ouvrir une enquête.
Si on veut signaler une agression ou porter plainte, est-ce que vous pouvez nous accompagner au commissariat? Parce que si on y va seul, on a peur d'être rejeté et qu'on ne nous écoute pas.
Oui, je peux vous accompagner. Je vous conseille de rédiger vos plaintes ensemble et que l'une de vous vienne vous représenter.
Je m'appelle Fi, je suis membre de la communauté LGBT et je suis bisexuelle, c'est-à-dire que je peux aimer une femme comme un homme. Tout a commencé par une relation amicale avec une fille. Au fil du temps, j'ai réalisé que je ressentais quelque chose de plus pour elle. Ce n'était plus une simple amie pour moi. J'ai commencé à sortir avec une fille en 2022 et ça a été difficile de l'annoncer, surtout à ma famille. Aujourd'hui, pour certains membres de ma famille, je suis une étrangère, ils m'ignorent. Mais je vais vous dire, je ressens ce besoin d'aimer un homme et une femme et je l'assume. Je n'attends pas l'approbation des autres. Quand j'ai parlé de mon homosexualité à mes amis ou à mes cousines, j'ai commencé par leur demander leur avis sur le sujet. Est-ce que vous m'aimeriez si j'étais homosexuelle ? Certaines m'ont répondu que ça ne leur poserait pas problème et d'autres m'ont dit que ce serait de la folie. Et puis, quand je leur ai avoué que j'étais bel et bien homosexuelle, elles ne m'ont d'abord pas prise au sérieux. Je leur ai expliqué que c'était en moi, que je n'avais rien provoqué. Quelques amis ont fini par comprendre, mais pas ma famille.
Quand je nous entends toutes, transgenres et lesbiennes, j'entends qu'on a vécu la même chose. Alors pour conclure, oui, on doit faire attention tous les jours. Mais c'est aussi important de nous accepter tel qu'on est. C'est notre droit et personne ne devrait pouvoir nous intimider. On a le droit de vivre la vie qui nous convient. On a le droit d'aimer qui on veut. On a le droit de porter plainte contre quiconque essaye de bafouer notre droit. Nous devrions être solidaires entre nous.
Pour conclure, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cet atelier parce que, sans vos témoignages, personne n'aurait conscience des réalités que vit la communauté LGBT à Madagascar.
Vous écoutez 8 milliards de voisins en direct sur RFI, reportage à Madagascar de Raphaël Constant sur l'exclusion, la marginalisation de la communauté LGBT.
8 milliards de voisins.
Pour séparer.
C'est une émission pour tous les voisins et toutes les voisines.
8 milliards de voisins, voisines, construisant la vie ensemble.
Alors à Madagascar, le réseau associatif Madagascar Solidarité LGBT, que vous avez entendu cette réunion d'informations sur des droits qui sont bafoués, qui sont souvent ignorés des personnes concernées, ce réseau se sent souvent bien seul. Ces activistes femmes ont du mal à être reconnues dans les luttes féministes de la Grande Île. Pour comprendre quelle est la place des transgenres et des femmes lesbiennes au sein du combat pour les droits des femmes, notre reporter Raphaël Constant a rencontré dans le centre de la capitale Jessica Lolo-Nirina Nivo-Seeno de l'association Women Break the Silence. C'est un mouvement féministe qui a été créé en 2021 pour lutter contre les violences sexuelles et la culture du viol à Madagascar.
La question d'intégrer la cause de la communauté LGBT est très délicate ici à Madagascar. Le fait même d'être allié des personnes membres de cette communauté est assez mal vu par d'autres personnes qui sont plutôt du côté traditionnel. Si toi, ton mouvement ou ton association, vous êtes identifié en tant qu'allié de la communauté LGBT, vous pourrez aussi être discriminé comme ces personnes membres de la communauté LGBT.
C'est votre cas ?
Oui, c'est notre cas. Nous, on continue, malgré tout. Pour nous, c'est l'individu qui compte. C'est vraiment la femme qui compte, mais pas son orientation sexuelle.
Mais j'aimerais comprendre quels sont les blocages dans la société, en fait.
Premièrement, c'est un blocage culturel. dès le plus jeune âge, on pointe déjà du doigt les personnes de la communauté LGBT. On dit que c'est mal. À Madagascar, être une femme, il y a ce rôle de procréer, il y a ce rôle d'être mère de famille, l'épouse, et un mariage est fait pour assurer la descendance. C'est impensable pour la culture malgache qu'il y ait deux femmes qui soient ensemble si on parle des lesbiennes.
Et pourtant, la loi à Madagascar ne condamne pas l'homosexualité. Elle n'autorise pas le mariage homosexuel ni l'adoption d'un enfant par un couple homosexuel. Pourtant, culturellement, ça veut dire que c'est quand même ancré, c'est ça ?
C'est ancré culturellement. On a cette loi, mais c'est accepté à partir de l'âge de 21 ans.
Alors expliquez-moi pourquoi cette cause, c'est un angle mort du combat des activistes féministes.
Jusqu'à maintenant, personne ne s'est prononcé, n'a dit dans ces mouvements féministes qu'ils font la différence. Déjà ça, il faut le dire. Mais ne pas affirmer qu'il ou elle ne fasse pas la différence ne veut pas dire qu'elle défende les droits de ces personnes-là. Elles se taisent par rapport à certaines situations. Ils ou elles se disent non, ce n'est pas notre cause, ce n'est pas le droit des femmes qu'on défend.
Donc ça passe sous silence.
Oui, ça passe au silence.
Et vous, comment vous l'expliquez ?
On n'assumerait pas en fait le regard de la population. Ça a vraiment une base très religieuse.
Donc ça veut dire laisser de côté une partie des femmes de la société ?
Effectivement, oui, c'est laisser de côté une partie des femmes. Je vais peut-être me faire pointer du doigt à partir de cela. Bon, j'assumerai. Ici à Madagascar, on est assez hypocrite aussi. Voilà. C'est pour cela aussi peut-être que quelque part, on sent la réticence des personnes de la communauté LGBT à rejoindre des associations ou des mouvements féministes.
Mais pourquoi elles ont peur ?
Elles ont peur de ne pas être écoutées, elles ont peur de ne pas être prises en compte. Les conséquences pour les femmes de la communauté LGBT, c'est que elles n'arrivent pas à briser le silence. Elles se renferment entre elles. Si on te dit tout le temps que tu n'as pas de droit en tant que membre de la communauté LGBT, c'est qu'à un moment donné, tu vas en être convaincu.
Est-ce que même un mouvement comme le vôtre, qui soutient la communauté LGBT, vous n'incluez pas toujours cette cause dans vos combats en fonction de là où vous menez vos plaidoyers ou devant qui vous menez vos plaidoyers ?
On ne parle pas tout le temps des droits des personnes de la communauté LGBT, certes. On connaît certaines régions qui sont un peu plus réticentes par rapport à la question des personnes de la communauté LGBT. On fait d'abord des pré-enquêtes, on demande à nos jeunes qui sont sur place s'ils sont oui, ouverts ou pas. Qu'ils soient pour ou contre, c'est pas encore là la question, mais qu'ils soient ouverts ou pas, en discuter juste.
Et au niveau des sphères politiques, est-ce que vous en parlez ?
On n'en parle pas au niveau des sphères politiques. C'est encore un sujet très difficile, très délicat et tabou. Et ça va prendre du temps pour que la mentalité change. Elles auraient besoin d'hommes ou de femmes politiques qui pourraient les soutenir dans leur combat. Elles auraient besoin aussi de lois pour les protéger. Par exemple, une loi qui punirait l'homophobie pour que au moins ces personnes-là se fassent accepter par la société.
C'était un reportage à Madagascar de Raphaël Constant, réalisé avec le concours de l'ONG CARE International, qui fait partie du projet Féministe en Action pour faire avancer le combat des femmes. Audrey Randria Mandrato, vous avez assisté, vous avez écouté ce long reportage tourné dans la Grande Île. Vous avez grandi, vous êtes franco-malgache, vous êtes fondatrice et présidente de l'association Malagasy Women Empowerment, qui vise à lutter pour l'amélioration des conditions, des représentations de la femme malagasy de toute génération. Comment déjà, vous, en tant que jeune femme, vous avez vécu, entendu ce reportage ?
Déjà, premièrement, je voudrais remercier toutes les collègues donc, qui travaillent sur cette cause-là, qui est celle de la communauté LGBTQ à Madagascar. Effectivement, donc, je soutiens ce que disait une collègue féministe, d'ailleurs que j'ai rencontrée aussi en vrai, que c'est vrai. Que beaucoup d'organisations féministes n'assument pas d'inclure cette cause dans la cause féministe, déjà par peur, effectivement, de se voir couper un petit peu l'herbe sous le pied.
Que cela ralentisse leur combat pour les femmes en général, en fait.
Exactement.
Hein.
Exactement. Et aussi, je pense cette peur de beaucoup d'organisations féministes d'assumer que les femmes trans sont des femmes. je vais le dire, c'est clair, à Madagascar, parce que en fait, effectivement, il y a vraiment cette hypocrisie qui règne. Il y a toute cette question de lobby aussi au niveau des législations. Donc c'est vrai que assumer qu'une femme trans est tout simplement une femme pour une activiste malgache, c'est déjà très compliqué. Et ensuite, je reviendrai sur le point en fait des autorités compétentes. Donc LGBTQ Solidarité a raison. La personne qui a témoigné a raison. Aller en tant que femme trans ou encore tout simplement femme lesbienne pour aller porter plainte, c'est une double peine. Tout simplement parce que être femme, déjà, on est plutôt sensible à ces causes-là. Et après, y aller auprès d'autorités compétentes qui déjà nous décrédibilisent avec une cause comme celle-ci, c'est clairement pas évident.
Oui.
Et c'est vrai, je souligne que moi, je suis vraiment malgache, j'ai grandi à Madagascar. Ça fait des années que je connais bien le terrain. Je sais exactement comment ça a évolué avec le temps. Et moi, je peux le dire aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes pensent que les personnes de la communauté sont libres, mais c'est pas tout à fait.
Justement, on va y revenir avec vous, Audrey Randria Mandrato, pour faire l'état des lieux de la situation. Mais tout de suite, on écoute avec vous le jeune rappeur J.E.R. qui a également grandi à Madagascar.
Sur le même banc, K-pop dans le casque, les gens passent entendre le son fort comme dans mes tympans, un peu plus proche des gens aux bras scarifiés que des gens populaires du bahut, cœur de meilleure qualité. Ça faisait BSO, perçant Sergi, toujours dans le même train. Au lycée, juste au cas où mon collègue m'offre un coup de poing américain. Juste au cas où un jour quelqu'un capte que je balance des sons sur FB, me fait rapper dans le couloir, les gens se rament des restes bouche. C'est qui ce chelou, c'est qui ce beau? Je crois c'est le gars qui sourit jamais dans le bus, rien que ça guette mal les gens. Il a une pote qui pleure sans arrêt, toujours assis sur le même banc, dubstep dans le casque, les gens entendent comme dans ses tympans. Jeune, Madagas, gothique, chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans. Jeune, Madagas, gothique, chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans. Jeune. Les années se mélangent dans mon esprit, j'ai pas le temps de respirer. Je regarde tout d'un œil nostalgique comme si j'avais terminé, mais c'est jamais terminé. Jeune Malagas, globe trotteur, jeune zinzin, jeune shooter, fils de génie, fils de cœur brillant, voit le monde dans toute sa splendeur. À l'école, je voyais des que trucs que les gens ne pouvaient pas comprendre. Des dragons, des formes infinies dans les murs, j'étais flat concentré, toujours amoureux, jamais dans l'initiative. Pour moi, la vie, c'était
une hallucination collective.
Sous perfusion de Midnight Club, de pétition, ou plutôt calme. Tant que j'ai mes refs, ma famille, je m'en fous de la terre, je peux vivre autre part. Que des crânes rasés, des gros bras, des motos, des visages qui font taire. Après minuit, si t'as pas un coup, buveur d'inano. Tu finiras 6 pieds sous terre. Toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans. Jeune, Malagas, gothique, chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans. Jeune. Les années se mélangent dans mon esprit, j'ai pas le temps de respirer. Je regarde tout d'un œil nostalgique comme si j'avais terminé, mais c'est jamais terminé. Mais c'est jamais terminé.
Vous écoutez 8 milliards de voisins sur RFI et nous parlons de Madagascar avec un contexte, vous le savez, Madagascar s'enfonce dans un marasme avec beaucoup, surtout ces derniers mois, de coupures d'électricité et d'eau fréquentes, très peu de routes, corruption, problèmes de gouvernance. D'où ma question pour vous, Audrey Randria Mandrato, vous qui êtes, qui avez fondé l'association Malagasy Women Empowerment qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes. Mais on est dans le contexte de cette enquête sur la marginalisation et les violences faites à la communauté LGBTQ à Madagascar. C'est compliqué avec ce contexte où on a plus de la moitié de la population qui est en situation d'extrême pauvreté, 75% de la population qui vit avec moins d'un dollar par jour. C'est pas le meilleur contexte pour se préoccuper d'une minorité oppressée, à savoir la minorité LGBTQ.
Oui, c'est une super question et un super point parce que effectivement, quand j'ai tout simplement annoncé mon intervention aujourd'hui, j'ai eu donc des mini-attaques du style change de combat. Clairement, on n'a pas le temps pour ça. C'est pas la priorité, etc. Et c'est un peu ce qu'on nous a dit également il y a 5 ans, il y a 6 ans sur la cause féministe ou encore tout simplement les violences faites aux femmes. Et moi, je reviens dessus. En fait, c'est important d'inclure tout le monde dans les causes qu'on mène. Surtout, je dirais bien la communauté LGBTQ à Madagascar, tout simplement parce que ce sont des individus, et effectivement, comme une collègue disait tout à l'heure, qui ont des droits, les mêmes droits que nous, qui vivent à Madagascar, qui sont en première ligne, tout simplement, de ces violences-là, et on ne peut pas mettre un voile derrière nos yeux et nous dire en fait, comme il y a la pauvreté, donc on ne pense pas aux droits de ces personnes-là. Effectivement, tout est lié, parce qu'on voit bien que, par exemple, c'est la personne qui parlait du travail du sexe et du fait d'être trans, et en plus de ne pas pouvoir porter plainte, on voit très bien que la précarité est liée avec son activité, est liée également avec ses droits. Donc c'est vrai que beaucoup
et la méconnaissance de ses droits, la méconnaissance de la loi en général même, hein, aussi.
Tout à fait, la méconnaissance de la loi. Et en plus, en revenant sur la méconnaissance de la loi, bien sûr, donc l'homosexualité est permise à plus de 21 ans. Mais on l'a très bien vu dans certaines situations qu'en application, ben, c'est encore plus compliqué. Parce qu'on on va venir dire que toutes les personnes qui ont moins de 21 ans ne sont pas conscientes de leur orientation de genre, leur orientation sexuelle. Et donc ça aussi, au niveau des droits à Madagascar, ça peut être très compliqué, surtout pour une personne qui fait partie de la communauté.
Ouais. Et d'ailleurs, il faut le préciser, l'homosexualité, donc, on l'a bien dit, n'est pas illégale, mais le code pénal punit d'une peine de 2 à 5 ans d'emprisonnement les relations homosexuelles avec une personne de moins de 21 ans, alors que dans le cadre d'une union ou d'un couple hétérosexuel, la majorité sexuelle est à 14 ans. Donc, on voit bien que la majorité sexuelle n'est pas la même en fonction que les relations soient homosexuelles ou hétérosexuelles. Ça quand même, ça pose question. On parlait aussi des dysfonctionnements vis-à-vis des violences policières aussi. Hein. Oui. Là aussi, c'est un vrai problème. Vous parliez des réactions qui ont suscité votre annonce sur vos réseaux sociaux quand vous avez dit que vous alliez participer à l'émission sur le sujet. Oui, ça n'est pas la priorité, certes. Mais vous avez aussi des réactions où on vous a dit l'homosexualité, ça n'existe pas à Madagascar ?
Tout à fait. Déjà, j'ai eu pas mal de témoignages avant de venir pour l'émission et même dans le cadre des activités de Malagasy Women Empowerment, donc de MWE, j'ai eu des réactions qui disaient que en tant que femme trans ou encore en tant que femme lesbienne, elles n'arrivent pas à assumer leur relation, même dans un groupe qu'elles ne connaissent pas. Tout simplement parce qu'elles savent qu'elles peuvent avoir des réactions qui sont assez violentes. Donc déjà, assumer « je suis lesbienne » dans un groupe qu'on ne connaît pas vraiment, donc ça, c'est pas possible à Madagascar. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'on m'a dit via certains témoignages. Mais également, on m'a dit ouais, « bah, l'homophobie, ça n'existe pas parce que ce sont des personnes libres ». Effectivement, lors de l'enquête, on le voit bien qu'on parle en fait de ouais, certaines femmes assument voilà, leur style, assument d'avoir des relations avec d'autres femmes que les hommes homosexuels, c'est un peu plus compliqué. Effectivement, je pense qu'il est bon de savoir, il est bon de dire plutôt que l'homophobie existe pour qu'on puisse avancer justement dans les combats. C'est un peu d'invisibiliser toutes ces personnes-là et de dire bon, ben, tiens, ça n'existe pas. Tu n'existes pas. Et c'est pour ça que je soulève quand même le point qui est que, avant tout, avant d'abord de se lancer dans tout un truc d'être contre l'homosexualité, contre la communauté LGBT, il est important de reconnaître que ces personnes-là existent, qu'elles ont besoin d'être visibilisées par rapport à des personnes hétérosexuelles. Et six.
Quand il y a ce qu'on appelle le coming out, quand une personne dit clairement à sa famille qu'elle vit une histoire d'amour, une histoire sentimentale avec une personne de même sexe, je pense notamment là au témoignage qu'on a entendu, au témoignage de femmes lesbiennes, quelle est en dehors du rejet, quel est le degré de compréhension du sujet et d'acceptation de cette réalité, que l'on soit pour ou contre d'ailleurs, hein, qu'il y ait rejet ou pas, d'acceptation de la réalité.
Oui. Par rapport à le coming out, en fait, moi, j'ai eu un témoignage d'une jeune femme qui disait avoir eu une relation avec une meilleure amie, une de ses meilleures amies quand elle était plus jeune. Et la réaction de sa famille, ça a été des coups de ceinture, donc de la violence envers elle. Et aussi, donc, une question d'honneur familiale qui est de dire ne va pas souiller notre nom de famille en assumant que tu es lesbienne. Et déjà là on voit un souci. Le deuxième souci maintenant, c'est que au niveau de sa meilleure amie, ça a été je vais l'envoyer en hôpital psychiatrique. Là on voit très bien que ils essaient de reconnaître l'homosexualité ou l'orientation de genre lesbien comme une maladie mentale. Et aussi, donc là, on l'a vu aussi au niveau de la religion, ce n'est pas assumé que des camps de reconversion existent à Madagascar. Mais cependant, il y a un mythe, effectivement, qui existe, comme quoi ils ont besoin d'être, par exemple, exorcisés.
Quand vous dites ce n'est pas assumé qu'il existe des camps de reconversion à Madagascar, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, au niveau de la religion, on ne va pas assumer dire « Ah, on souhaite que tu changes d'orientation sexuelle et on va prier pour toi. » Très souvent, on va dire...
On va corriger ton orientation sexuelle.
C'est ça, c'est ça. Ben, vraiment, on va corriger ton orientation sexuelle. Et dans certains pays, effectivement, on voit que les camps de reconversion sont d'une violence. Chose.
Vous pensez aux viols correctifs, notamment en Afrique du Sud,
exactement,
pour les lesbiennes.
Hein. Exactement, les viols correctifs. Également, donc, le fait de frapper, ça on l'a vu donc, sur la violence qui est faite envers la femme lesbienne. Mais à Madagascar, ça va être, bon, ben, t'es peut-être habité par un démon, on va faire en sorte de prier pour toi, tu vas venir à l'église, tu vas voir que ça va se corriger. Si tu te plonges dans la religion, tu verras qu'en fait, tu n'es plus gay, tu n'es plus lesbienne, tu n'es plus trans.
Ça va jusqu'à des pratiques d'exorcisme.
Oui. Ça va jusqu'à des pratiques d'exorcisme. Et de nouveau, j'aimerais le dire, c'est que c'est pas assumé, clairement. C'est hypocrite. C'est dire, bon, ben tiens, on va t'inviter, on va prier pour toi, on va être plusieurs à prier pour toi. Au final, en fait, c'est clairement en fait, une séance d'exorcisme en pensant que cette personne, elle est soit malade, soit elle est habitée.
Mais sans nommer l'orientation sexuelle elle-même.
Exactement. Sans nommer.
Sans dire le mot.
C'est ça. Sans dire, on va essayer de te changer. C'est plutôt de dire, je pense que là, tu es dans une phase qui fait que tu t'y intéresses. Si tu reviens sur le droit chemin, tu vas voir que tout va bien aller, quoi.
Ces séances d'exorcisme, elles sont courantes sur la grande île?
Alors moi, j'ai eu des témoignages vraiment, en fait, qui disaient que on t'emmène vraiment à l'église. Ça va être fait de façon, on va dire, très banale. C'est comme te dire, viens à l'église.
Au cœur de l'institution, de l'église protestante, voire catholique.
C'est ça. En fait, généralement, effectivement, ça se fait au sein d'églises chrétiennes. Très souvent, églises chrétiennes. Moi, malheureusement, je n'ai pas suffisamment de connaissances sur les autres religions. Mais je sais que dans l'église chrétienne, déjà, ce n'est pas accepté, clairement. Et d'ailleurs, c'est noté dans la loi que ce sont considérés être des relations contre nature. Donc ça veut déjà tout dire. Et puis, deuxièmement, moi, j'ai eu plein de témoignages disant que ça a été fait de façon vraiment banale, quoi. C'est viens à l'église ce dimanche, on va rester un peu, on va discuter peut-être avec le pasteur, peut-être avec le prêtre par rapport à ce qui t'arrive, et puis on avise.
Le pape François accepte la bénédiction de couples homosexuels en tant que personne humaine. Ça ne veut pas dire qu'il y a reconnaissance de l'union homosexuelle en tant que telle, mais ça a provoqué une vague de protestation à Madagascar où les catholiques représentent un cinquième de la population, mais ça ferait quand même 4 ou 5 millions de personnes. Aujourd'hui, le lien entre l'homosexualité et la religion est un des verrous, un des blocages à Madagascar.
Tout à fait. Donc, je peux reprendre par exemple en octobre 2020. Donc, il y a eu clairement une proposition de loi contre le mariage pour tous. Déjà, il n'y a pas une proposition de loi pour le mariage. Il y avait une proposition de loi contre le mariage.
Couper court à toute velléité, finalement.
Exactement. Pour dire, en fait, toute association ou tout représentant qui voudrait œuvrer en faveur de la communauté LGBTQ, on lui dirait directement non, c'est pas possible, parce qu'il y a un projet de loi contre ça. Et donc on voit déjà qu'au niveau institutionnel, la présidente de l'Assemblée nationale a soutenu ce projet de loi en octobre 2020. De plus, elle a soutenu que ce sont des relations contre nature. Donc là, de nouveau, la religion a quand même énormément sa place à Madagascar. On sait que on peut reprendre aussi un autre projet de loi à part, qui est le projet de loi pour l'avortement, où on a vu que l'Église catholique, l'Église protestante ont eu leur voix, une grande voix par rapport à ce projet de loi. Et c'est exactement ce qui se passe pour le mariage pour tous ou l'adoption pour tous et toutes.
Et tout récemment, le gouvernement, alors rien à voir avec la communauté homosexuelle, mais vient d'adopter ce mois-ci un décret qui prévoit la castration chirurgicale pour les violeurs d'enfants. On ne sait pas encore comment ça pourrait être appliqué, qui le financerait, qui pratiquerait l'acte chirurgical, mais c'est un décret qui est dénoncé par l'Église catholique, par les organisations de droits humains. Mais finalement, qu'est-ce que ça dit aussi des errements politiques sur toutes ces questions de société qui sont très politisées, très utilisées en fait comme outils politiques?
Très bien. Donc moi, ce que je vais dire là tout de suite, c'est que le gouvernement est complètement déconnecté de ce qui se passe au sein de la société malgache. C'est-à-dire que ce type de loi, ça fait parler dans les médias, ça fait parler à l'international, ça fait jeter des fleurs au gouvernement, en fait, où on leur dit, bravo, enfin un pays qui ose la castration chimique, mais ça ne revient pas au problème même de la société qui est pourquoi les gens violent, pourquoi les hommes vont agresser des femmes ou d'autres personnes dans la rue. On ne revient pas sur ce problème de société qui est qu'est-ce que fait réellement les politiques déjà dans les droits humains fondamentaux.
Vous restez avec nous, Audrey Andria Mandrato. On se retrouve dans quelques instants. On va revenir sur, effectivement, le projet politique sur les sujets de société à Madagascar, entre violence et progressisme. Ça sera juste après Amaré. C'est Sweet. Et c'est une sélection de la playlist RFI Musique.
Sexy, 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 sexy.
De voisins sur RFI, à écouter également en replay, en podcast grâce à l'appli RFI Pure Radio, surtout pour réécouter le reportage à Madagascar sur la communauté LGBT réalisé par Raphaël Constant. Audrey Randria Mandrato, vous êtes notre invitée. J'ai dit d'ailleurs tout à l'heure que vous êtes franco-malgache. En réalité, vous êtes malgache, vous avez grandi à Madagascar, vous êtes venue en France pour vos études. Vous n'avez pas de passeport français, vous tenez à le dire pour ceux qui nous écouteraient et qui se diraient que vous connaissez de très loin vos origines, ça n'est pas le cas. Vous connaissez bien le terrain et c'est dans ce contexte que vous avez fondé l'association Malagasy Women Empowerment. J'aimerais que vous nous disiez aujourd'hui très concrètement ce que peuvent faire les associations. Alors on a entendu le travail de terrain du réseau LGBT mais qui est très spécialisé sur la protection et le rappel des droits de la communauté LGBT puisque l'homosexualité n'est pas illégale à Madagascar, rappelons-le, hein, sauf en cas de relation avec une personne de moins de 21 ans, sachant que la majorité sexuelle pour les couples homosexuels, c'est 21 ans, mais la majorité sexuelle pour les couples hétérosexuels, c'est 14 ans. Bon, allons comprendre. Mais dites-nous quel est votre travail sur le terrain et à distance quand vous êtes en France.
Ok, très bien. Donc Malagasy Women Empowerment, MWE, lutte pour les représentations et les conditions de la femme malagasse et les minorités de genre à Madagascar et dans les diasporas. Donc nous, en termes d'action à Madagascar, nous avons donc pris le parti de sensibiliser autour de la santé sexuelle et reproductive, mais également autour de l'empowerment. Donc on parlait pas mal de connaître ses droits, être représenté, savoir s'affirmer dans l'espace public ou l'espace privé. Ça, c'est hyper important, donc c'est le type d'activité qu'on peut avoir. On peut également donc avoir des centres d'écoute, des cellules d'écoute, des groupes de parole, où on pense que c'est hyper important de briser cette loi du silence, surtout sur des sujets comme l'inceste, l'homosexualité, encore d'autres sujets aussi comme les violences sexiste et sexuelle.
Ne mettons pas sur le même plan l'inceste et l'homosexualité, bien évidemment. L'inceste étant un délit.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais donc, ce que je veux souligner par là, c'est qu'effectivement, on peut avoir beaucoup de personnes qui viennent en groupe de parole, en fait, discuter justement des sujets comme l'inceste au sein de la famille, qui est aussi un sujet qui est très tabou à Madagascar, autant aussi en France aujourd'hui. Et ce que nous faisons à distance, c'est qu'aujourd'hui, on fait pas mal de festivals, on fait des activités ici en France, en fait, pour déjà capitaliser sur ce qui se passe à Madagascar. Quand je dis capitaliser, ça veut dire mettre en avant les actions qui sont faites par plein d'associations, de mouvements, de sujets, à travers donc plein de des conférences, des ateliers. Voilà, on a des soirées aussi parfois qui sont en mixité ou en non-mixité, voilà, qui mettent en avant donc des femmes malgaches, des femmes artistes, d'ailleurs, dont une DJ qui est une femme trans malgache qu'on aime beaucoup, avec qui on travaille et qui nous a vraiment aidé aussi à nous remettre les pendules à l'heure, en fait, pour tout le travail qu'il y a à faire pour le féminisme et la communauté LGBT. Ouais.
Tout au long du reportage, et vous l'avez bien confirmé, il y a vraiment un tabou sur les gros sujets de société à Madagascar, dans les familles aussi. Est-ce que c'est pas... Quand on voit le degré de pauvreté, les difficultés d'infrastructure à Madagascar, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de rester debout aussi, la vie étant tellement difficile sur la grande île, que si en plus on parle de ces sujets qui n'apparaissent pas comme vitaux, ça serait encore plus dur de rester debout. Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître ça à la société malgache qui a cette urgence de rester debout ?
Oui, alors très bien, ça c'est vrai que c'est un argument qu'on me dit souvent aussi par rapport à l'urgence. Urgence. Moi, ce que je veux dire, c'est que la vie est déjà très dure à Madagascar. Faisons en sorte de faciliter la vie de tous ces gens-là. Et si ces personnes-là viennent vers nous, vers d'autres associations, pour nous dire ça ne va pas, on ne se sent pas bien, ils n'ont même pas de bien-être, en fait. Leur santé mentale, elle est mise à mal. À ce moment-là, donc, c'est notre travail en tant qu'association de garder ce socle de la solidarité et aussi donc, d'améliorer au maximum la vie de ces personnes-là, même si on sait que des sujets comme la pauvreté ou l'écologie ou les infrastructures sont aussi des sujets très macro.
Ouais. On est dans le second mandat du président André Rajoelina. C'est le deuxième gouvernement malgache. On a 12 ministres femmes, donc on a un gouvernement qui est pratiquement paritaire. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a été évoqué au cours du reportage, que y a des choses qui progressent, en tout cas en milieu urbain, dans certains quartiers, on voit une amélioration, non pas des conditions économiques, mais je veux dire de la possibilité de dire qui on est vraiment. Finalement.
Oui. Déjà, j'ai envie de dire quand même que ne restons pas dans ce féminisme performatif. C'est-à-dire que oui, c'est bien d'avoir 12 ministres femmes. Est-ce qu'on met 12 ministres femmes pour rattraper des sujets, des années de travail et les mettre en front pour qu'on dise, bah, en fait, c'est une femme qui est à la tête du ministère, donc forcément, ça se passe mal. Ou est-ce qu'on est vraiment dans cette démarche aujourd'hui d'inclure les personnes les plus marginalisées de la société dans les sphères de décision ? Ça, c'est une question à se poser. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, ça fait du bien, mais j'attends de voir donc, sur ce mandat présidentiel si les associations féministes seront reconnues dans les discussions, si on aura notre mot à dire, si on sera invité aussi, parce qu'on a déjà été pas mal boycotté sur certains sujets, si on sera invité encore à discuter avec le gouvernement.
Audrey Randria Mandrato, quand on vous écoute, on ne l'a pas encore dit aux auditeurs, mais vous avez 27 ans. Vous représentez quelque chose d'une nouvelle génération aussi à Madagascar ?
Oui, je n'ai pas la prétention de dire que je représente toute la génération malgache, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai commencé tôt, donc j'ai commencé à mes 20-21 ans, où j'ai eu un souffle en fait en regardant la situation économique et politique de Madagascar. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer, j'ai envie de me dire, si cette lutte doit durer 20 ans, 30 ans, c'est pas grave, on sera là. Et on est beaucoup à vouloir être là. On participe, que ce soit pour la diaspora ou à Madagascar. Et donc j'aimerais dire merci beaucoup à tous ces jeunes activistes, et aussi donc toutes les générations
qui prennent des risques,
que ça soit sur le terrain ou aussi au sein de la diaspora.
Merci beaucoup Audrey Randria Mandrato d'avoir été avec nous en direct sur RFI. J'espère que vous aurez aussi des réactions positives. Vous avez tout votre temps, vous avez toute votre vie, et ça aussi c'est un poids important de pour faire changer les choses, hein, parce que ça sera un combat long. Vous êtes fondatrice donc, et présidente de l'association Malagasy Women Empowerment. On se quitte avec cette sélection de la playlist José James et Balogi, Dark Side on the Sun, et c'est sur RFI, bien sûr, et à réécouter, à retrouver sur la playlist RFI Musique. No beginning here. Yeah, I live on.
on the street with no name. And now I know the price of fame, babe. Mama told us, but it's all the same. Prince fell to his knees in pain. We all go where we wanna be. Flying high on a masterpiece. Rise all your souls of the drum and bass. Ride home on the road of eternal flame. I don't know what the future be. I spit light through the darkest sea. I only know this the only way. Why do we dream of a brighter day? Die in the blaze of a thousand flames. Fly, be reborn in a thousand ways. Cry every tear that the ocean gave. High is the mark of the eagle's gaze. I hope that you will know this is a prayer for broken-hearted people living in the shadow of a dream that never started. Equal rights, from darkness comes the light. We burn it down tonight. When the world's done, the dark side of the sun. We've been living in dark side of the sun. No beginning here, nowhere to run.
Said to who in a part of no. Said to feel a part of no, no, no. Cette région est de poussière, poussière, pays, pays, poudre, air. Épiphénomène sur épiphénomène, spécimen parmi les spécimens. Viral pour être viral, industrie du spectral. Est-ce un signe des temps ou le chant du signe? Le signe du vaudor sous toutes les enseignes. Humano, hamster, que des minots, marqué au fer. Big Brother, dresseur de troll. Robin Gallus, égaré sous la toile. Entre les nids de poules ou entre les pieds de grue, on tombe à court de fuel. Pas de quoi recharger les accus. Dark Sun, Dark Sun, rideau sur ce mauvais peplum. Flamme, Dark Sun, Dark Sun, rideau sur ce mauvais peplum. Flamme.
Living in dark side of the sun. No beginning here, nowhere to run. We've been living in dark side of the sun.
8 milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai encore quelques infos quand même à vous donner. Déjà, remercier l'équipe, Juliette Brault, Delphine Cachin, Tom Malky, Stephen Elsley. Les émissions sont bien sûr à réécouter en podcast quand ça vous arrange. Et demain, 8 milliards de voisins, entreprendre en Afrique avec le coach Didier Akwété. Ce qui veut dire que si vous êtes jeune diplômé, que vous venez de démarrer un projet d'entreprise, vous nous appelez pour raconter vos difficultés, pour poser vos questions précises et concrètes au coach sur notre compte WhatsApp. Au 33 7 64 45 51 41. En deuxième partie d'émission demain, débat sur les PME dans l'agroalimentaire en Afrique. Sont-elles trop petites pour survivre face à des marchés, des besoins immenses? Comment augmenter les volumes, créer des alliances, fabriquer des géants de l'agroalimentaire comme sur d'autres continents? Et puis sur notre compte Instagram et WhatsApp channel pour les jeunes diplômés, retrouvez aussi nos conseils emploi. Agnella Vekwaku répond à vos questions. Dernière vidéo, comment postuler sans expérience professionnelle, mais aussi quel CV pour être lu en 30 secondes par les recruteurs. Dans quelques instants, ce sera RFI Midi.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.